Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Sophie Noailles.
Ils dévoilent leur amitié en parlant de tous les sujets de l'existence. Qui a décidé que, parvenu à un malentendu radical, les hommes et les femmes n'avaient plus rien à se dire? Voici la preuve du contraire. Depuis plus de 20 ans, fin d'après-midi, un des plus grands écrivains français converse avec une journaliste de renom. Ils abordent dans une conversation qui n'est pas près de finir les sujets qui préoccupent la société de leur temps, leur obsession particulière, tout y passe. L'amitié, l'amour, la fidélité, la littérature, la sexualité, la politique et la religion. Entrons donc pas à pas dans cette conversation infinie avec ces deux invités que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui. Allez, j'allais dire honneur aux dames aujourd'hui. Josanne Savigno, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes évidemment journaliste. Vous avez dirigé Le Monde des Livres, supplément hebdomadaire du Monde de 1991 à 2005. Vous avez été rédactrice en chef culture jusqu'en 2002, chroniqueuse jusqu'en 2012, puis responsable de M, le magazine du Monde de 2012 à 2004.
Pas M, c'était le mensuel. C'était le mensuel du Monde, voilà, qui n'existe plus.
Voilà, donc c'est encore une faute de biographie, mais c'est pas grave. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont deux biographies notoires, celle de Marguerite Yourcenar et de Carson McCullers. Et vous avez publié en 2014 avec Philippe Roth chez Gallimard, évidemment. Philippe Roth qui nous a quittés il y a peu de temps.
Presque un an, pas tout à fait.
Une belle triste. Amitié aussi triste, ouais, avec Philippe Roth. Philippe Solers. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue, évidemment. J'allais dire, comme mes confrères, c'est difficile de vous représenter, on ne vous présente plus. Mais il faut le faire quand même.
Et oui, il faut toujours représenter. Je sais que la représentation est très en question, mais comme tout s'oublie très vite, vous savez, déjà, il est très tard, donc on ne sait plus qui je suis. Mais
non.
En fait, je vais parler en tant qu'inconnu. Voilà, ça me convient.
Alors, je l'ai déjà dit, vous êtes l'un des plus évidemment célèbres écrivains français. Vous avez publié depuis 58 des dizaines de romans, d'essais chez Gallimard.
Oh là là, oui.
Vous allez publier bientôt un 80.
Je sais pas que ça...
80 et quelques. Un nouveau roman.
Il n'y a pas 80 romans, mais il y a plus de 80 livres, à mon avis, en tout.
Ça.
Et là, c'est un roman, le nouveau. C'est
on
ça.
Voit, Josiane Savigno, vous connaissez bien quand même.
Je travaille un peu.
Elle a tendance à lire et à savoir lire de très près.
Ah, et ça vous tient à cœur. On
grâce
verra.
À elle, j'ai pu écrire pendant 18 ans. Dans le monde des livres, toujours sur des sujets qui m'intéressaient beaucoup, au point de faire un recueil qui s'appelle « La guerre du goût ». C'est un recueil pendant 18 ans. Le monde, aujourd'hui, je n'existe plus pour ce journal, mais il faut dire que j'y étais si souvent que je comprends qu'ils aient tendance, en effet, à m'oublier. Cela dit, grâce à Josiane Savigno, ici présente, j'ai pu écrire ce que je voulais sur la littérature et l'art dans le monde des livres. Et je viens de ça a fait un recueil qui s'appelle « La guerre du goût ». Et dont je viens de recevoir l'édition chinoise. Vous voyez comme les choses sont
bizarres.
Et on sait
combien la Chine vous tient à cœur. Et la Chine est présente dans cet ouvrage que vous écrivez à quatre mains, une conversation infinie, parue aux éditions Bayard. Josiane Savigno, cette conversation est finie, elle aurait pu rester intime entre vous deux.
Oui, mais il y a des éditeurs à Paris. En fait, c'est parti d'une sorte de provocation. C'est-à-dire que le chef d'orchestre Michel Tabachnik, que vous connaissez sans doute, qu'on connaît un peu, un jour s'est approché de notre table et a dit « Mais qu'est-ce que vous pouvez bien trouver à vous raconter tous les jours ?»
Tous les jours, pendant plus de 20 ans.
Alors, plus. Et ça nous a fait rire, évidemment, ça nous a fait rire. Et un jour, on prenait un verre avec Lydia Breda, qui a une collection chez Bayard, et Frédéric Boyer, qui à l'époque était directeur littéraire de Bayard. Maintenant, il dirige Paul, comme vous savez sans doute, après la mort de Paul Tchaïkovski-Laurence. Et on leur a raconté ça comme une plaisanterie. Et tous les deux, ils ont dit, c'est vrai, mais pourquoi vous ne mettez pas par écrit ce que vous racontez tous les jours? Oui. Et puis on a dit, pourquoi pas?
Vous preniez des notes, Josiane Savigno?
Non, mais après j'en ai pris, après on a refait des... Parce qu'au début, quand j'ai proposé quelque chose à Lydia Breda, ils ont trouvé, sans doute à cause de ce que vous disiez tout à l'heure, mon obsession pour l'œuvre de Solers, que c'était trop sur son œuvre. Donc ils ont dit, non, il faut qu'il y ait des thèmes que vous avez cités, la fidélité, l'amour, etc. Bon, j'ai quand même parlé de livres, parce que moi, je ne peux pas parler avec un écrivain comme si, je ne sais pas, il allait au salon de l'agriculture demain matin.
Philippe Sellers.
C'est un livre, à mon avis, très réussi à cause de José Ernest Avignon, qui a un sens de la composition, du rebondissement dans la conversation. En effet, ça avance constamment parce qu'elle écoute de très près et elle a immédiatement une autre question à poser. Et elle n'est pas tout à fait d'accord, et même parfois pas du tout avec ce que je dis. Et c'est là où ça devient intéressant.
C'est là où ça devient intéressant parce que le
désaccord, qui devient quand même un accord dans le désaccord, c'est quand même très intéressant, d'autant plus qu'on a... désormais, vous avez une propagande constante, à savoir que les femmes refusent tout des hommes, ou à peu près, et que les hommes se filent doux parce qu'ils ont peur,
ils ont peur d'être dénoncés. Et d'ailleurs,
c'est très, très justifié, parce que, en effet, depuis combien de millénaires se comportent-ils mal? Voilà. Donc, pour une fois, vous avez deux personnes civilisées, de sexes différents, du moins, c'est ce
en apparence.
Ouais, voilà, et qui peuvent... échanger
qui échange en toute liberté
d'un bord à l'autre de la rive et du fleuve du temps qui devrait en principe les séparer. Je suis très contre la séparation qui est le problème constant. Qui veut diviser? Eh bien, puisque nous sommes à Radio Notre-Dame, je vais le citer son nom, n'est-ce pas? Le prince de ce monde, homicide dès le commencement, et qui veut diviser pour régner. C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de faire avec une virtuosité qui me laisse absolument pantois. Ça va très vite. Le diable divise. Tout est en train d'être divisé à l'intérieur même de l'Église catholique, apostolique et romaine ou post-romaine. Et puisque je suis à Radio Notre-Dame, je suis en train de prier pour l'Église catholique dans son naufrage actuel.
Mais un naufrage.
Vous parliez du diable, mais vous savez,
oui,
chez Bayard,
vous y consacrez un chapitre.
Ce qui est drôle, c'est que chez Bayard, qui est une maison d'édition catholique, comme vous savez, et ils ont, le chapitre qu'ils ont préféré, c'est le diable.
Ça m'intéresse. Un chapitre sur Dieu aussi, oui. Évidemment. Ça veut dire que le diable existe, Philippe Sellers?
Ah oui, vous ne croyez pas qu'il existe?
Non, mais je vous pose la question. Parce que c'est Josiane aussi qui vous pose la question.
Vous savez ce que dit Baudelaire, la grande virtu, c'est la grande subtilité du diable, c'est de faire comme s'il n'existait pas. Voilà.
Donc, on l'a évacué d'ailleurs de l'Église catholique pendant un certain nombre d'années.
Il ne faut pas parler du diable, il ne faut pas parler de la résurrection des corps, il ne faut pas parler de tout ça.
Benoît XVI, on a parlé du diable.
Voilà. Il ne faut pas faire peur aux enfants. Il faut infantiliser au maximum. Voilà. Infantiliser au maximum l'être humain, s'occuper de sa reproduction technique, de plus en plus diabolique, entre guillemets. Donc, tout ça va à toute allure. Et il y a lieu quand même de garder une tête très froide par rapport à la réfrigération glaciale du diable. Le diable, contrairement à ce qu'on a imaginé, vit dans la glace.
Et non pas dans les flammes.
Non. Et pour ça, s'en convaincre, je demande à tous les auditeurs de vérifier ce que je suis en train de dire. Il faut lire simplement le dernier chant de l'Enfer de Dante, dont il est urgentissime de relire absolument la Divine Comédie, parce que là, vous en saurez... Et alors, il y a un pape qui m'a intéressé beaucoup, c'est Ratzinger, c'est Benoît XVI, qui, dans ses dernières homélies, ça avait attiré mon attention. J'ai écrit beaucoup sur Dante, que je connais pratiquement par cœur. Donc, il a fait un certain nombre d'homélies, et je me demandais ce qu'il avait, parce que c'était vraiment avec toujours une citation du chant 33 du paradis de Dante. Vergine madre, figlia del tuo figlio, termino fisso d'eterno consiglio. Donc, comme nous sommes à Radio Notre-Dame, je traduis en français. Vierge, mère, fille de ton fils, terme fixe d'un éternel conseil. Consiglio, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que d'être devenir la mère de son fils? Je pose ça à tous les hommes s'ils ont le courage de se poser la question et qu'ils ne l'ont et comme ils ne l'ont pas, ça les laisse un petit peu embarrassés avec leur mère.
Mais alors je reviens sur le diable parce que il y a cette phrase de Marguerite Yourcenar que j'aime beaucoup. Je l'avais interrogée elle aussi sur le diable. Est-ce que vous croyez au diable? Et sa réponse c'était qu'elle y croyait, mais que surtout tant de gens vivent dans de petits enfers variés.
Ouais.
Ça, c'est délicieux.
Les petits enfers. Mais vous n'êtes pas tout à fait d'accord, justement, Philippe Solers, avec Marguerite Yourcenar là-dessus.
Non, sur la gloire, il n'est pas d'accord.
Oui.
Ni les petits enfers.
Tant de gens. Non, mais tant de gens vivent dans de petits
enfers.
Enfers
variés, oui.
Ben, ça, il n'y a qu'à se retenir.
C'est la vie quotidienne.
Oui, c'est la vie quotidienne. La plupart des gens, comme on dit, vivent dans des petits enfers variés, où ils s'ennuient tellement qu'ils sont en train de sortir et aller sur les ronds-points, notamment les femmes, pour trouver des gens à qui parler.
Ouais, se rencontrer.
C'est, oui, c'est ça, se rencontrer. Ça. Enfin, oh, on ne pouvait plus, on s'ennuie.
C'est une éternelle solitude.
Ah oui,
une solitude terrible.
Oui, terrible.
Ça, en dehors des débordements dont on ne va pas parler ici, qui sont inadmissibles, on les connaît. Au début, je suis allée un peu parler avec des gens. Au début du mouvement, il y a ça, c'est-à-dire des gens
l'isolement.
Auxquels on a dit tu achètes ton petit pavillon de banlieue, tu t'endettes, tu achètes deux voitures, tu t'endettes, ton mari te quitte, tu es endetté, tu es là avec tes deux enfants, tu regardes la télévision, tu n'as pas d'amis, tu connais personne. Et tout d'un coup, ils arrivent sur les ronds-points et ils se parlent.
Beaucoup de femmes.
Il fallait en arriver là pour se parler.
C'est terrible. Ils font des crêpes ensemble et tout, ils se parlent, c'est terrible. C'est terrible.
Alors que vous vous parlez tous les jours.
Bah oui, mais enfin nous, on n'est pas dans cette tragique position sociale. J'ai vu toutes ces gens qui, il y a cette affaire du surendettement. C'est ce que je disais, quoi. C'est-à-dire, on s'endette pour sa voiture, on s'endette pour son pavillon. Après, il faut acheter la machine à laver, on s'endette. Ensuite, il faut acheter le lave-vaisselle, on s'endette. Et le 15
en même
du
temps,
mois,
vous vous dites, mais c'est cette amitié qui est entre vous et cette conversation infinie qui se noue autour de cette amitié, c'est ce que vous dites. Vous êtes camarades de combat. C'est ce qui vous rejoint sur ce mensonge social pour combattre aussi cette espèce de mensonge social que l'on vit actuellement à l'extrême, j'ai l'impression. Mm-hmm.
L'ennui règne. Le diable sait s'y prendre. Et
il occupe la place.
C'est un royaume. Le prince de ce monde, encore une fois. Voilà. Alors, à partir du moment où vous n'avez plus de transcendantal, et où Dieu s'est éclipsé, ou peut-être qu'il est mort, ou qu'il ne se manifeste plus, il devrait se manifester pour sauver son Église. Et c'est urgent. Mais voilà, donc il y a quelque chose qui est quand même dramatique. Vous avez 2000 ans d'histoire qui sont en train de partir en fumée, toute l'Italie, imaginez, les églises, la beauté elle-même se consume. En plus, l'horizon climatique vous fait que votre planète est en train probablement d'exploser. Donc comment ne pas être déprimé? Le grand écrivain de cette dépression...
Oh, Seigneur, ouais. Michel Houellebecq.
Et je recommande sa lecture, sérotonine. Comme j'ai recommandé celle de Dante, et évidemment je ne vais pas comparer l'écrivain que je vais citer à Dante, le pauvre il serait écrasé. Non, mais c'est quand même un très bon roman, c'est Sérotonine de Michel Houellebecq, qui arrive exactement à l'heure des gilets jaunes et de la misère française, et il est là tout à fait en prise directe avec la dépression nationale.
Josiane Savigno, vous n'êtes pas tout à fait d'accord là-dessus.
Non, mais j'aime beaucoup Michel Houellebecq. J'ai défendu des livres de Michel Houellebecq. Je trouve qu'il y a d'excellents livres de Michel Houellebecq. Le premier, d'ailleurs, Extension du domaine de la lutte, est très très bon. Plateforme, qui a été assez négligée, qui est un récit bien clos,
très bon,
et très bien. Moi, j'ai assez aimé La possibilité du Nil. J'ai pas beaucoup aimé La carte et le territoire. Pas tant que ça, Les particules élémentaires. Soumission, idéologiquement, je suis évidemment pas du tout d'accord avec ce qu'il propose, mais je trouve qu'il y avait un projet. Et Sérotonine, bon, c'est vrai qu'il y a, comme dit Soler, c'est un projet, mais le projet, c'est un non-projet. C'est la déprime du mâle occidental de 60 ans. Et vraiment, ça me fatigue, quoi. Ça
me fatigue. Dans le néant.
Ça me fatigue,
Philippe Soler.
Le néant a quelque
chose. On est anéanti.
Ça le fait rire, moi ça me fait pas rire.
Je vais vous dire pourquoi.
Non, ça fait pas vraiment rire. Permettez-moi
de faire une toute petite remarque philosophique. On est anéanti parce qu'on ne prend pas au sérieux le néant. Or, si vous voulez m'expliquer la différence qu'il y a entre l'être et le néant, comme dit un philosophe fameux qui s'appelle Hegel, vous allez me l'expliquer, vous allez voir que c'est très compliqué, et que quand saint Paul perd la vue, et tout à coup il voit le néant, c'est-à-dire qu'il voit Dieu, enfin. Donc il faut être très familier du néant pour tenir le coup. Sinon, on est dans le négatif, la négativité, la négation, ce qui est en train d'arriver, et on ne pense pas le néant.
Mais justement, Houellebecq est dedans.
Moi, avec le néant, je me sens très bien avec le néant.
Mais Houellebecq ne pense pas le néant, il est dans la négativité dont vous parlez.
Vous sentez très bien dans le néant parce que vous avez ce sens de la transcendance.
Parce que j'ai l'être. En même,
vous avez l'être.
Du même coup. En même temps. Voilà. Le néant, l'être. Encore une fois, si vous arrivez à me démontrer que la différence qu'il y a...
Je crois qu'il en faudrait encore plusieurs heures pour vous.
Voilà. Ah non, mais ça n'est pas compris. Mais c'est ça le nihilisme, c'est de ne pas prendre au sérieux le néant. Du coup, il infiltre tout. Et vous êtes dans la négation, la négation, la négation.
Mais Houellebecq est nihiliste, on est bien d'accord.
Oui,
Houellebecq est nihiliste.
Oui, bien sûr, c'est un nihiliste actif. C'est d'où son intérêt. Oui, oui, absolument.
J'imagine bien vos conversations.
Il veut absolument vous déprimer, vous résister, c'est bien. Mais enfin, vous êtes pratiquement la seule à résister vraiment, puisque 320 000 exemplaires, tirage, etc. Donc le chiffre est là pour prouver l'impact.
Oui, mais 320 000 exemplaires vendus, c'est pas 320 000 exemplaires lus.
Eh bien,
ça sera un sujet tout à l'heure. On va poursuivre cette conversation infinie autour de toutes ces thématiques qui vous animent tous les deux. On se retrouve juste après cette première pause.